Kevin D'Amour!
Salut tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien?
Eh oui, on t'entend bien.
Excellent.
Déjà du monde qui m'appelle. Il est rendu 1h45, on est dimanche après-midi.
Trop d'amour, ou bien ils veulent trop de stock pour toi.
Trop d'amour, trop d'amour. Qu'est-ce que tu veux, quand on a une pandémie dans l'air, puis qu'on referme tout, puis on confine, inquiétez-vous pas, le brasseur va rester ouvert durant le confinement. On prend seulement une semaine, du lundi au vendredi, entre Noël et le jour de l'an, pour faire l'inventaire, mesdames et messieurs. Alors, on va être juste fermé, mais on va quand même travailler comme d'habitude.
Ça vous permet d'être à jour quand vous allez magasiner en ligne. Son site web va être à jour versus l'inventaire qu'il y a vraiment. Et c'est
ouais.
Beaucoup de travail, de beaucoup de petites pièces dans toute la boutique.
Fait qu'on a pas vraiment le choix. Salut tout le monde, en passant, c'est Fitz le brasseur et mon ami
Kevin Fu.
On est ici pour notre 13e podcast. Et oui, que le temps passe très, très, très vite de ce temps-ci. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kev?
Ben, quand on se tient relativement occupé, puis honnêtement, moi, je brasse beaucoup parce que ça a l'air que je bois aussi.
Tu bois aussi beaucoup?
Oui, ben,
qu'est-ce que j'ai entendu dire?
Ben, écoute, ça me donne le temps d'expérimenter d'autres choses. Puis de travailler de la maison, ça l'aide à sauver énormément de temps pour la préparation. Puis au lieu de faire des grosses journées de brasse, mais souvent, je l'étale un petit peu à chaque soir pour la préparation. Création de recettes, moudre d'un grain un autre jour, préparation de l'eau et minéraux une autre journée. Puis quand ma journée de brasse est arrivée, aussitôt que je commence, mon eau est déjà chaude et c'est parti. Et que je peux faire ça assez rapidement, donc c'est plus agréable.
Puis en plus, à ce que tu travailles pas loin de chez le brasseur, ben t'as le temps de venir faire des petites commissions sur l'heure du midi.
Ben oui, mais au lieu de prendre 10 détours, puis des fois, en tout cas, au niveau de la pandémie, c'est un peu plus compliqué que c'était avant, mais normalement, tous ceux qui vont à la boutique du brasseur, tout le monde a beaucoup de jasettes, tout le monde a beaucoup de questions, et tout le monde est content de voir Fitz pour...
Ben, je te dirais, Kev, ils sont contents de te voir aussi quand t'es là. Tu t'as posé quelques questions aussi, une fois de temps en temps, là.
Ben, ça a l'air que les gens sont habitués de voir ma face maintenant, et qu'ils me regardent. Là, je passe, je voulais pas passer devant eux autres pour être impoli, parce qu'eux font le line-up pour rentrer chez Fitz. Mais c'est comme, là, ils me reconnaissent. « Non, 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 c'est correct. » Puis la dernière fois, ma femme était là, elle dit « Je suis la femme à Kevin Fu. »
Crédina. Fait que aujourd'hui, on va vous parler de lager.
Oui, on a déjà parlé de plein de lager, mais en fin de compte, lager et ale, c'est deux souches qui ont une multitude de possibilités qu'on peut faire avec ça.
Oui, puis en plus de ça, aujourd'hui, on a décidé de vous gâter vu que c'est le dernier podcast de l'année. Alors, on va boire une bière de Kevin Fu. Alors, Kevin, il a décidé de nous emmener une bière à déguster pour ce podcast-là parce que, comme il a dit au début, il brasse beaucoup. Puis, il faut bien passer ça, cette bière-là. Puis, comme la seule occasion de pouvoir partager une bière en ami, c'est en travaillant.
Ça ressemble littéralement à ça.
Fait qu'on n'a pas le choix. On fait des podcasts pour goûter à de la bière. Puis, on vous apprend en même temps à brasser et à déguster. C'est sûr que pour ce podcast-ci, si vous voulez goûter la bière à Kev, ben, je suis vraiment désolé, là, ça vous tente de venir faire un podcast avec nous autres.
Mais je vais faire quelque chose, par exemple. Cette recette-là est une bonne réussite pour le style et je vais vous donner la recette pour ceux qui ça leur tente d'expérimenter. Et que vous allez avoir accès dans le bas de l'écran à un lien pour avoir tous les ingrédients, les quantités, les minéraux, la levure que j'ai pris. Petit cadeau pour ceux qui ça leur tente d'expérimenter. Je vais vous faire parvenir ma recette de cette bière-là, qui est une California Common. C'est une branche de lager, mais elle est cuivrée et qui est très clean, très facile à boire. Et que ça permet justement de dire, une fois que tu en prends une, mais tu en veux un autre parce que ça coule tout seul. Mais elle a un petit goût caramélisé quand même en cause des grains. Et que je vais vous faire parvenir dans la recette tous les ingrédients. Je vais regarder aussi les minéraux que moi j'ai fait pour présenter cette recette.
Es-tu capable de nous mettre ça sur un eau neutre si quelqu'un veut savoir réel les minéraux qu'on a?
Ben, j'ai utilisé pour avoir quelque chose de, quand on a dit crisp, c'est du gypse que j'ai utilisé. Et que le gypse permet de monter le sulfate et c'est comme on a dit, même au même principe que le houblon, le ratio dans les minéraux va faire la même chose. Et que c'est un ratio entre le sulfate et le chloride. Et que tout dépendant de ce qu'on veut faire, normalement, c'est pour comprendre rapidement, là, c'est un petit peu le même principe qu'une IPA. On veut que ça finisse sec, mais ça va faire ressortir d'autres saveurs. Et normalement, quand on va faire une bière avec des fruits, on ne veut pas que ce soit nécessairement le grain qui ressort. On veut que ce soit les fruits, donc on va mettre ça un petit peu plus sec. Même principe pour les IPA, mais les lagers, comme style Pilsner ou la Californian Common, on veut ça crisp, on veut ça sec. Et que je vais vous pouvoir montrer les chiffres. Si vous avez votre analyse d'eau chez vous, vous allez pouvoir vous amuser avec soit le logiciel Brewwater que j'utilise ou bien, j'imagine peut-être que c'est amélioré, le Beersmith pour les minéraux. J'ai pas vraiment...
Beersmith s'est amélioré, mais maintenant, on a aussi Grandfather qui nous offre une version bêta des minéraux que certains clients ont essayé et que ça fit pas mal dans le... comme le Brewwater. J'ai pas essayé personnellement encore parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de brasser. Hein. Vous avez pas vu de la vidéo de Grandfather. Mais éventuellement, on va faire le test là, pour comparer les deux logiciels. Puis ce serait vraiment intéressant de voir si le logiciel de Grandfather, qui s'améliore d'année en année, on peut dire, ou de mois en mois, va être assez performant pour ajuster vos minéraux qu'on a dans notre bière.
Parce que les minéraux vont s'adapter versus le type de bière, les grains que vous allez mettre dedans. Il y a beaucoup de choses qui font qu'au niveau du goût, les tarifactions des grains, qui vont faire qu'on va aller chercher plus un type de minéraux pour aller chercher le résultat voulu. Et que les logiciels, généralement, vont faire dire, OK, on a rentré tout ça comme information pour faire notre recette. Maintenant, je vais ajuster qu'est-ce qui reste à s'ajuster. Et que c'est très pratique et vous allez pouvoir voir une différence si vous êtes nouveau à travailler avec les minéraux dedans.
Pour le podcast numéro 13, Kevin vous fait un cadeau. Il vous donne la recette de sa California Common. Il est super gentil. Ben, le brasseur aussi, il y a un cadeau pour vous autres.
Oui, t'es pas courant. Surprise.
Fait que j'ai décidé de vous donner, parce que, tu sais, vous savez qu'on a une nouvelle compagnie qui s'appelle Fitz Café. J'ai décidé de vous faire tirer, parmi tout le monde qui nous écoute, deux livres de café de deux sortes différentes qui vont être au choix de moi. Pour vous faire goûter nos blends. Fait que juste me dire si vous gagnez, si vous aimez une machine expresso et oui ou non. Et si vous le voulez, moulu ou non. Puis je vais décider lequel des deux livres on va vous envoyer. Puis on va vous envoyer ça si vous ne pouvez pas vous déplacer. Bien, par la poste, ça va être gratuit, tout va être gratuit. Puis fait que ça permet à beaucoup de monde de pouvoir participer à ce concours-là. Et encore une fois, si vous êtes habitué au concours du brasseur, juste suivre la description en bas de la description. Et on va avoir une place pour pouvoir goûter notre café. Alors, le gagnant a juste à nous dire qui veut moulu ou non moulu. Et ça va vous permettre de goûter notre café. Si tu as déjà goûté mon café, puis tu l'aimes, puis tu veux en avoir un gratuit, ben deux livres gratuits, ben ça va me faire plaisir de te l'envoyer.
Il faut découvrir quelque chose de différent. Des fois, les gens ont de la misère à sortir de leur zone de confort. Même principe que le café ou de la bière, on va essayer quelque chose de différent. Puis en fin de compte, au nombre de personnes qui me disent « j'aime pas la bière », une minute, je vais te faire découvrir quelque chose. Les gens qui disent « ah, le café », attends une minute, si t'es habitué au café qui était dans ta machine, à ton usine ou à ton bureau, puis en fin de compte, c'est comme, ben, c'est ça qu'on boit, vous allez découvrir une toute autre qualité de produit.
Et oui, fait que ça me fait plaisir de vous faire parvenir mon deux livres de café qu'on va faire tirer avec la description. Mais aujourd'hui, on parle de bière, on parle de lager, on parle de California Commons, on parle d'un style un peu plus méconnu à travers le milieu. Beaucoup de monde vont voir une lager comme une bière de grand marché, Molson, Labatt, Heineken, Stella Artois, ces choses-là. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on parlait un petit peu dans notre podcast sur les lagers qu'on avait emmené nos bières de batteur de femme, tu disais?
Oui, la Stella Artois.
Fait que il faut voir que de plus en plus d'amateurs de bières vont retourner aux sources, comme à la souche, et aux sources, et ils vont recommencer à boire des lagers. En amateur de bière aussi, qui fait de la bière à la maison, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de faire une lager si on n'a pas l'équipement pour le faire, malgré que présentement, on a les températures idéales pour faire des lagers au Québec. Pourquoi? Si vous avez un sous-sol qui n'est pas chauffé, si vous avez une sonde-pompe, que la petite pièce n'est pas chauffée aussi, c'est parfait. Les températures sont environ de 10 à 12 degrés. Si vous avez une descente de cave présentement, ce n'est pas encore assez froid pour que la température ait vraiment dépassé le 8 pieds de la descente de cave. Fait que ça fait une température environ de 10 degrés. Puis quand j'ai commencé à brasser, c'était mes températures idéales juste avant Noël et un petit peu après pour faire mes lagers. Faire attention par contre, parce que les températures peuvent descendre assez rapidement si on ne veut pas faire une bière de glace.
Ou une slush.
Une bière de glace.
Fait que pour la. Qu'est-ce qu'on voit ici, là? Une particularité de ce type de bière-là, là, c'est translucide. On voit très bien, c'est clair, clair, clair. On veut vraiment que le. Là, c'est sûr que c'est un petit peu opaque. Ben pas opaque, mais je veux dire ambré en cause de la couleur des grains caramel que j'ai utilisé. Mais comparativement à New England IPA, qu'on ne voit pas à travers ou on voit peut-être beaucoup de dépôts, ce type de bière-là est vraiment très clair. On voudrait parler un peu sur les lagers, la clarification. Il y a beaucoup de méthodes de clarification qu'on peut faire.
Il y a beaucoup de méthodes.
Oui, beaucoup de méthodes. Oui, parce que c'est une méthode, mais tu peux en faire plein en même temps, mais c'est ça. Pour ces types de bières-là, vu que ça fait partie de la particularité, dans certains cas, il faut de l'équipement. Mais dans d'autres cas, c'est peut-être pas la solution parfaite, mais pour aider, on a beaucoup de méthodes que vous pouvez faire à la maison avec un petit produit ou un petit changement de température qui va absolument tout changer et au résultat final. Et que c'est pas dispendieux. Puis si vous êtes. Puis qu'est-ce qu'on disait que c'est, les lagers, c'est pas nécessairement facile. Quand ceux qui sont habitués d'apprendre les bières commerciales, puis ils disent je vais en faire une pareille. N'oubliez pas, c'est les bières les plus difficiles à faire parce que vu que c'est pas camouflé par les grains torréfiés ou c'est pas camouflé par un paquet doublon, toute erreur de brasseur, de fermentation, de levure, peu importe qu'est-ce qui peut arriver, vous allez le détecter. Et que ça prend beaucoup de connaissances, sinon ça prend juste de la chance si on sait pas, si on n'est pas habitué dessus. Et que notre but, plus qu'on va connaître les méthodes de travail, plus que vous allez pouvoir refaire la même bière une deuxième fois sans aucun petit défaut.
L'autre chose aussi qui se passe, c'est que beaucoup de monde vont commencer à écouter le podcast et vont dire « Ah, il parle de lager, on va arrêter ça là parce que moi, je ne suis pas équipé pour le faire. » Sachez que présentement, on a deux souches de levure qui sont disponibles qu'on appelle des fausses lagers. Lesquelles, Kevin?
On a la Kolsch.
Ouais, on a la Kolsch. Mais encore là, ça a un côté un petit peu plus fruité qu'une Pilsner, un exemple. T'sais. On aurait aussi la Cream Ale, qui est une fausse lager. Mais ça fait quand même assez longtemps que ça existe. On a deux nouvelles souches qui est arrivée cette année pour faire des pseudo-lagers.
On a-tu la Crispy d'Escarpement?
La Crispy d'Escarpement qui sont disponibles, que eux vont donner un profil lager à cause du style de bière, mais qu'on peut fermenter à haute température. Par contre, il faut être capable de descendre quand même notre température à un 18-19 degrés Celsius. Qu'est-ce qui est quand même pas si pire, là, si tu as une pièce fermée que tu n'utilises pas, tu fermes le chauffage ou tu mets ça à 18, puis ça va être parfait. Puis on a Omega aussi qui nous donne la Lutra, qui est une autre souche de Gvec qui permet de faire des fausses lagers. Alors, toutes les méthodes qu'on va donner aujourd'hui pour clarifier une lager ou clarifier une bière en particulier, bien, ça va vous aider à avoir une bière plus limpide, plus crispy, plus présentable à mon oncle qui est habitué de boire sa Labatt ou sa Molson Dry. La méthode la plus facile de clarifier une bière se trouve à être un choc de température qu'on appelle un cold crash.
Le cold crash vous permet, à la fin de la fermentation, le froid va tout agglomérer les particules et va tomber dans le fond de votre tourrie, de votre fermenteur. Dans le meilleur des mondes, pour aider, si vous avez un fermenteur conique, ça va vous permettre vraiment d'aller emmagasiner la partie des protéines, levures, houblons, les choses qui sont troubles, de tomber dans le fond et de ne pas y toucher quand on va faire le transfert pour l'embouteillage ou le kegage. Et cette partie-là aide beaucoup, mais le froid le fait automatiquement.
Fait en gros, Kev, là, tu me dis que si je fais pas un cold crash, je mets ça en bouteille, je mets ça au frigo avant de la boire, puis je fais vraiment attention à la versant, ça va faire un peu la même chose. La moitié de ma bouteille va être clair, 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 clair.
Ça, dans un sens, vous mettez vos bouteilles dans le frigo, ça va faire un cold crash automatique. Sauf que vu qu'on ne l'aurait pas fait dans le fermenteur, on va quand même emmener plus de dépôts dans nos bouteilles. Donc, nos bières vont être quand même claires, mais vous allez avoir un plus gros dépôt simplement.
OK, mais mettons que moi, je veux pousser la note, là, OK, puis je pousse ça vraiment loin. Là. Je veux vraiment pas de dépôt dans ma bouteille. Là. Je veux zéro dépôt. Si je le passe à travers des filtres 1 micron, est-ce que je vais avoir quand même un dépôt dans ma bouteille?
Ça dépend de votre méthode d'embouteillage. C'est que les gens qui vont embouteiller normalement à la maison, vous allez faire une deuxième fermentation en bouteille. Et que même si vous avez passé votre filtre...
C'est pas Petit Caribou en passant.
Non, c'est Kevin Fu. Aussitôt que la levure travaille pour remanger les sucres, il crée automatiquement un dépôt. Et que si vous voulez simplement carbonisé. Donc, vous faites votre transfert pour enlever...
Ou gazifié.
Oui, merci. Je pense que je vais me battre avec ça le reste de mes jours. Et que, aussitôt que vous voulez mettre vos bulles dans votre bouteille, normalement, la raison pourquoi il n'y a pas ça dans les microbrasseries, c'est qu'ils ont, eux, ont une bright tank.
C'est quoi une bright tank?
Une bright tank, c'est une grosse cuve en stainless qui peut permettre de recevoir une pression de gasification. Et qu'ils vont mettre du beer gas dedans pour pouvoir créer...
CO2.
Really? OK. C'est du CO2. Je t'approche. Et que eux, ils vont déjà créer les bulles comme si c'était un gros keg. Et que vu qu'il n'y a pas de fermentation, et ça se fait à froid aussi, il n'y a pas de dépôt qui se crée. Et qu'eux vont transférer directement avec leur pompe dans chaque bouteille qu'ils vont purger et qu'ils vont caper ou dans des cannes, tout dépendant. Mais dans ce temps-là, c'est pour ça que les bouteilles normalement qu'on achète à notre épicerie, à notre dépanneur, il n'y a aucun dépôt dedans. Mais à la maison, malheureusement, on n'est pas vraiment bien équipé pour faire ça.
À moins que tu aies un keg. Si tu as un keg, tu as mis ta bière dans ton keg, tu l'as gazifié parfaitement et tu achètes la magnifique chose qui s'appelle un...
Kegerator?
Non. Pour faire des bouteilles.
Un beer gun.
Alors, avec la beer gun, tu purges ta bouteille, fait que tu enlèves tout l'oxygène qui est dans ta bouteille, tu remplis à partir du fond très tranquillement et tu capes sur la mousse de bière. Tu vas faire la même chose qu'à la microbrasserie. Tu vas avoir une bière gazifiée mécaniquement avec du CO2. Par contre, il n'y aura aucun dépôt dedans parce que ta bière va avoir fini de fermenter et tu vas avoir fait tous tes cold crash à l'avance, ce qui va te permettre d'avoir une bière très limpide sans aucun dépôt, comme une microbrasserie ou les bières commerciales de ce monde.
Mais pour ceux qui n'ont jamais utilisé un beer gun, je m'en dirais pas, là, demandez-le à n'importe qui. Là. Ça prend beaucoup, beaucoup de patience et de décès et de petits trucs que vous allez avoir à savoir, comme par exemple, mettez vos bouteilles vides au frigo. Le froid aide justement à empêcher de mousser, donc vous allez avoir moins de mousse dans votre bouteille, parce que sinon, des fois, en mettant... Quand vous avez votre beau collet, là, puis vous transférez, bien, ça cause que la mousse va monter, puis là, vous faites des dégâts partout. Puis, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool.
J'ai jamais vu personne présentement utiliser le beer gun one-shot deal, puis faire comme oh, « c'est merveilleux! » Il faut juste trouver notre technique, la meilleure technique qu'on est capable d'avoir, trouver nos trucs et astuces, et c'est la façon la plus facile. Peut-être que tu vas dire au début « Ah non. » Peut-être que tu vas l'acheter, tu vas le mettre de côté parce que tu vas trouver que c'est de la cochonnerie. Puis, il faut que tu prennes vraiment une batch que tu dis « Bon, on fait des tests, puis on est prêt à la boire beaucoup plus rapidement parce qu'il va y avoir trop dead space dans notre bière. »
Puis, ceux qui veulent faire l'expérience, Fitz, où c'est qu'on peut acheter ça, un beer gun?
Hey, au www.lebrasseur.ca!
Et que vous allez avoir besoin d'une bonbonne de CO2 parce que dans le beer gun, vous allez brancher le CO2 dedans et vous allez avoir votre ligne qui est branchée directement sur votre keg. Vous allez avoir deux gâchettes. Une gâchette est pour purger la bouteille et qu'on rentre du CO2 dans la bouteille pendant quelques secondes. Par la suite, avec l'autre bouton, vous allez transférer votre bière du keg à la bouteille qui va monter tranquillement. Si vous êtes des puristes, vous donnez un autre petit shot sur le dessus de la bouteille pour enlever le surplus d'oxygène sur le top et vous allez encanner.
Ça va faire aussi une petite mousse en le faisant. Fait que vous allez canner sur la mousse ou tu vas aller embouteiller sur la mousse, ce qui va empêcher l'oxydation de votre bière.
Et que j'en ai un beer gun, j'ai essayé à multiples reprises et moi, comme que tout le monde a fait, je me suis tanné. Sauf que depuis dernièrement, j'ai commencé à le réutiliser, mais à moitié. La raison que je vous dis, ceux qui me suivent sur Kev en Fût, j'ai pris quelques photos. Ma conjointe me donne toujours un coup de main à embouteiller.
Merci, Dina.
Oui, c'est très, très encourageant et ça me permet de faire un peu moins de dégâts, me concentrer à ce que je fais. Et que pour ceux qui sont capables de faire du multitask, j'ai ma ligne pour remplir mes bouteilles, mais dans un autre côté, j'ai mon beer gun. Mon beer gun, je l'utilise simplement pour pouvoir purger mes bouteilles de CO2. Et que pendant qu'une bouteille est remplie, en faisant le transfert de ma cuve à ma bouteille, j'ai mon autre gun qui va purger ma bonbonne, mon CO2, enlever l'oxygène. Et je fais le switch de A à Z et je passe mes bouteilles à ma femme qui va caper. Et que c'est une... ça ne peut pas régler le problème à 100%, mais je viens d'aider énormément d'éviter d'oxydation en utilisant le beer gun et remplissant mes bouteilles de CO2.
Vous pouvez faire la même étape, mais avec juste le beer gun. Ça veut dire que vous passez de votre cuve d'embouteillage sans pression à votre beer gun pour remplir et brancher le CO2. Et au lieu d'avoir deux choses, vous avez juste le beer gun pour remplir votre bonbonne, votre bouteille par pression du fermenteur. Et par la suite, juste faire un petit push pour le CO2 et ça va fonctionner aussi super bien.
C'est un petit truc, un petit gadget que ça, qui peut être assez facile à faire à la maison, puis ça peut justement améliorer votre qualité de votre bière à long terme.
Pour le monde aussi qui n'aime pas les embouteilleurs à ressort ou les embouteilleurs pas de ressort, parce que c'est en plastique, mais le beer gun est en acier inoxydable, fait que ça vous permet de le nettoyer mieux, d'avoir quelque chose vraiment de pratique. Puis quand vous le laissez tomber dans votre pot à côté ou vous le laissez tomber sur la table, il n'y a pas de bière qui coule partout avec parce que tout est bien fermé, bien hermétique.
Donc, si on revient, on a un petit peu dérapé, mais c'est quand même des petits trucs un peu intéressants. On parlait de clarification. La clarification, on a parlé de cold crash. Le cold crash permettait de descendre la température de votre bière pour être capable de clarifier votre bière. Une chose à faire très attention, c'est quand on va descendre la température, ça va créer une pression négative. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. La pression négative fait que ça va suctionner l'oxygène intérieur et vous allez voir, pour ceux qui ont un petit cap sur le dessus, les bulles vont rentrer par en dedans et vous avez des chances d'oxyder votre bière.
Ça, on veut pas ça.
Il y a beaucoup de choses à faire attention. Quand que je fermentais en tourie,
En
des touries de vitre.
Je connais pas.
Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait?
Pour... Hey, t'es vraiment vieux, mon Kevin Fu. Ouais, hein? Oui. Des touries de vitre, là, ça doit faire au moins un bon 5-6 ans que personne n'utilise ça. Qu'est-ce qu'on utilise, nous, présentement? C'est quoi, Kev?
Toi, tu utilises des boquettes de plastique ou bien les fermenteurs en stainless que j'utilise de Grandfather, que j'apprécie énormément.
Puis si vous voulez avoir un entre-deux, il y a aussi le fermenteur de Anvil ou de SS Brewtech qui est disponible, qui sont pas très dispendieux en bas de 210, je m'abuse, 209,99 au brasseur, évidemment. C'est quand je donne des prix, là, c'est beaucoup les prix du brasseur. La compétition... Aucune idée de leur prix parce que je suis tellement occupé à vous servir de la meilleure façon possible que j'ai vraiment pas le temps de regarder qu'est-ce que les autres font.
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour le prix, c'est un bon début pour un, la cuve sur le dessus est très grande, facile à nettoyer. C'est du stainless, donc c'est excellent. On peut prendre le plastique pour les graphings, pour les infections. Et en même temps, c'est conique. Et que vous avez même une petite valve pour prendre des échantillons dedans. Et que comparativement au fermenteur de Grandfather, qui est environ 800, 900 $.
879,99 quand il n'est pas en spécial.
Et voilà, t'es pas pire. C'est une façon de commencer, mais sans trop avoir trop de difficultés à nettoyer, faire vos transferts. Et que c'était pour le prix, si vous n'êtes pas sûr, vous voulez commencer, c'est un très bel achat. Si vous voulez upgrader par la suite... Vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires, mais le but dans la bière, peu importe ce que vous faites, vous voulez tout contrôler. Vous allez devenir des control freaks. Pourquoi ça? Pourquoi telle température? Quelle vitesse la température change? Tout ça va faire un résultat différent sur votre bière. Et on pourrait faire deux fois la même recette, vous et moi, puis on n'aura pas le même résultat parce que notre méthode de travail est différente. Je disais que vu que j'étais vieux puis que je faisais des tours, je faisais mes bières entourées, c'est ça que je disais, et que... Je mettais ma tourie de vitre dans le frigo. Mais quand on met ça dans le frigo, malheureusement, on ne contrôle pas la température. On tombe directement à la température extérieure de la pièce, à un frigo qui est à peu près à 1, 2, 3 degrés.
Ça fait quoi?
Ça va faire une pression négative que, malheureusement, tout le star sand qu'on a mis dans le top vient tomber dans la bière et on rentre l'oxygène. Il y a une chose qui m'a aidé. Vu que j'avais différentes hauteurs dans mon frigo, j'ai pris un bouchon orange qui a deux petites sorties à l'extérieur qui permettent de se mettre directement dans le top du tourie. J'ai mis un long tuyau qui tombait beaucoup plus bas et le tuyau, je l'ai fait tremper dans du star sand. Fait que, vu que la réalité, c'est que la bière ne vient pas froid instantanément, mais quand même assez vite pour faire un suck back. Mais vu que le suck back était tellement bas et le tuyau était tellement haut, ben j'ai regardé mon liquide avant et après, et même s'il y a un peu de succion, ça ne s'est pas rendu dans ma bière. Donc, j'ai réussi à faire un cold crash sans avoir d'oxygène qui est rentré dedans. Donc, c'est un petit truc qui a très bien marché pour moi pendant quelques années. Mais tu n'as pas l'air d'accord.
Non, c'est super comme truc. C'est sûr que le fait de mettre ça plus haut, puis la pression va monter, mais le grand tuyau, tu n'as jamais pensé de juste faire des ronds, puis laisser la même hauteur, puis
C'était assez serré en espace, mais okay. Oui, c'est...
Oui, ça aussi, ça marcherait. Sinon, vous pouvez faire...
J'ai quand même juste pas pensé. c'est ça. Tu veux que c'était simple de même.
Alors, mon Kev, la deuxième technique qu'on a pour faire nos crawl crash, si tu veux, pour empêcher le suck back, c'est qu'on peut utiliser, comme vous voyez présentement à l'écran, deux pots maçons, que le premier va se remplir de CO2 et le deuxième va faire un... va aussi se remplir de CO2 et ils vont empêcher l'oxygène de passer. Tu ne le vois pas présentement à l'écran parce qu'on est live, là, mais eux, ils vont le voir tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met nos touris ou nos chaudières de fermentation au froid, il se crée une compression du CO2 qui est la place au-dessus et ça prend d'autres places par-dessus pour compenser le vide. Sinon, on a une implosion. Voici une photo de l'implosion. C'est quand même assez extraordinaire qu'est-ce que ça peut faire, hein, Kev?
On veut pas faire de dégâts, on veut pas faire d'oxyder, on veut pas d'oxyder notre bière. Et que pour clarifier notre bière, il y a des étapes, mais il y a quand même des complexités à très faire attention. Parce que sinon, vous allez dire pourquoi ma bière est pas bonne. Faites attention.
Puis ça empêche aussi d'avoir le 15 pieds de tuyau que Kevin mettait là, pour empêcher son sac back dans son Star Sand en bas de son frigo qui mesurait 25 pieds d'eau.
Ouais, mais j'étais moins patenteux et que ça a fait la job.
Kev, c'est un gars de bureau. Hein? C'est pas un gars de manipulation très, très haute.
Non, c'est juste super fin.
Ça, par exemple, il l'est. Ça, c'est sûr. Fait que ça, c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser pour le faire. C'est un petit peu plus de patentage, un petit peu plus compliqué, mais ça fonctionne relativement bien quand même. L'autre façon, mon Kev, qu'on a pour empêcher ou pour aider la clarification de votre bière qui se trouve être à chaud. De quelle façon que tu pourrais aider à clarifier la bière si tu n'as pas de frigo à la maison puis que tu aimerais ça avoir une bière quand même assez limpide et cristalline?
Qu'est-ce qui aide beaucoup et qui est très facile et très peu dispendieux, c'est qu'on va utiliser, en anglais, on va appeler ça du Irish Moss, si vous faites des recherches.
La caraagényl.
Oui, donc il y a plus de chances, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez le trouver en dessous de Irish Moss, mais faites le bon terme
de
scientifique.
De la caraagényl.
Et voilà, rappelez-vous-en. Et que cette dans un sens, c'est de l'algue. L'algue...
C'est de l'algue.
Oui, c'est ça. C'est de l'algue. Puis vous allez les avoir en flocons.
Puis ça sent l'algue.
Et donc, faites très attention aux portions que vous mettez. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour faire un bon travail. Environ une demi cuillerée à thé à une cuillerée à thé pour un 5 gallons, un 23 litres pour un, 20, un 6 litres. Gallons, un 23 litres, va vous permettre à 10 minutes à la fin de l'ébullition d'agglomérer les particules, les protéines et d'aider à qu'ils tombent dans le fond de votre bouilloire une fois que vous allez refroidir. C'est déjà un début et que quand on va le transférer dans le fermenteur, vu qu'on a déjà commencé à agglomérer, ça va aider aussi à tomber dans le fond de fermenteur.
C'est donc une des raisons pour laquelle que tu ne vas pas prendre ton chaudron comme ça et faire vous. Parce que tout ce qui est rendu au fond, comme des protéines que tu ne voulais pas mettre dans ton fermenteur. Fait que c'est pour ça que certaines personnes se ramassent avec un gros dépôt dans le fermenteur que d'autres n'ont pas parce que cette bière-là, c'est pas réellement de la bière, c'est vraiment des cochonneries qui sont tombées au fond. S'ils se ramassent au fond de votre chaudron, si vous voulez, ou de votre grandfather, puis vous tirez, bien, vous allez avoir la même cochonnerie dans le fond de votre fermenteur qui va se déposer au fond. Et que ça va prendre plus de place pour votre bière. Oui, vous allez avoir l'impression d'en avoir plus, mais vous allez en laisser quand même plus à la fin parce que la levure qui va se déposer par-dessus va vraiment le compacter puis ça va empêcher justement de le ramasser.
Et que, un autre petit truc très simple pour pendant l'ébullition, pour ceux qui vont faire surtout des IPA.
IPA, qui fait ça?
Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler. Connaissez-vous ça, des IPA? On peut utiliser un hop spider ou bien vous pouvez utiliser un sac en nylon, c'est bien ça?
Oui, un sac de nylon ou un sac de coton fromage fait aussi super bien la job.
Ça va vous permettre de garder la majorité de vos houblons qui vont quand même de pouvoir bouger dans votre bière, mais ça va faire un moins gros dépôt. Donc, moins de chances de bloquer votre pompe si vous en avez un, vous bloquez vos tuyaux. Ceux qui vont le refroidisseur à plaque, très important parce que les plaques sont très, très minces. Donc, c'est facile de vouloir bloquer les plaques avec du houblon.
On pouvait mettre aussi un strainer si vous avez un refroidi sur la plaque. Hein?
Oui, des petits trucs comme ça. Et qu'en même temps, vous allez avoir moins de pertes à transférer dans votre fermenteur pour avoir beaucoup plus de houblon qui va absorber un peu de bière et qui va tomber dans le fond. Donc ça, c'est un petit truc qui fait que ça va aider à clarifier votre bière parce que vous allez créer moins de dépôts.
L'autre truc qu'on a, c'est encore par rapport au cold crash, c'est de mettre quelque chose que vous avez déjà mangé quand vous étiez très, très, très petit. Même encore aujourd'hui, on en mange. Ou que vous êtes malade puis vous êtes à l'hôpital.
Oui, vous n'avez pas eu le choix de manger ça.
Non, c'est le dessert le plus populaire à l'hôpital, je crois.
C'est du manger mou. Du manger mou, il n'y a rien de meilleur. Mais vous pouvez utiliser l'ingrédient principal pour du manger mou dans votre bière. On appelle ça de la gélatine. La gélatine, vous pouvez en trouver chez Fitz ou vous pouvez en trouver dans votre épicerie aussi.
Fitz, tu n'en as pas.
Allez dans votre épicerie. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher et vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup.
On met combien, Kev? On met un sachet complet pour 23 litres vu qu'un Jello, on ne fait pas 23 litres de Jello de la fois. Fait que j'imagine que 23 litres pour un petit sachet, c'est en masse.
Ben, quand t'es plus jeune, t'as jamais fait ça, le Jello à vodka? On préfère notre Jello à la bière?
Non, moi, je faisais de la vodka de coup.
On n'a pas vraiment pas besoin de beaucoup. Pour un 23 litres, on va simplement prendre un demi-cuillerée à thé qu'on va diluer dans un quart de litre d'eau bouillante. Donc, vous allez stériliser votre contenant. N'oubliez pas que tout ce que vous allez mettre dans votre bière une fois que la fermentation ou une fois que l'ébullition est finie, ça peut être un contaminant. Vous devez faire très attention. Donc, votre contenant, vous allez stériliser. Vous allez rajouter votre gélatine avec votre eau bouillante qui va permettre de tout faire fondre la gélatine. Attendez quelques petites minutes pour pouvoir refroidir. Rajoutez la gélatine avec le liquide dans votre fermenteur. Mais pour bien comprendre, c'est que le Jello va durcir une fois que c'est froid. Donc, votre Jello, vous le mettez dans le frigo. Ça ne fonctionnera pas si votre fermenteur, votre bière, est à température pièce. Vous devez le mettre à basse température, 2, 3, 4 degrés. Et quand vous allez avoir rajouté la gélatine, c'est là que ça va faire l'effet de nettoyage. Quelque chose à comprendre. La gélatine, c'est pas végétalien. Donc pour ceux qui sont puristes, toutes les kits, dans un sens, c'est de la moelle d'os, de la gélatine. Donc, pour ceux qui veulent faire attention ou pas faire une mauvaise blague à quelqu'un qui que c'est important pour eux, n'utilisez pas de la gélatine. Autrement, on a parlé que quand on faisait une lager, on a l'étape qui s'appelle du lagering.
Mm-hmm.
Du lagering, c'est un cold crash, mais à long délai. Donc, on va faire un cold crash de 2 à 4 degrés pendant 2 à 3 semaines. Même, on peut le faire plus longtemps si on veut. Plus qu'on va garder ça froid, plus qu'on va avoir une bière limpide. Elle va être très claire. Ça ne veut pas dire que la bière va être meilleure. Là, c'est rendu côté visuel pour le type de bière. C'est ça qu'on veut. La gélatine vous permet de tricher et de faire ça environ dans 24 heures au lieu d'attendre 2 semaines. Fait que si vous faites... regarde, je le prouve, là. Éclair. Il y a de la gélatine dedans, puis j'aime le steak. Fait qu'arrêtez de me juger. Arrêtez ça, là.
Juste de la gélatine dedans?
Fait qu'en dedans de 24 heures, la bière est devenue très limpide au lieu d'attendre un autre 3 semaines de plus de lagering. Donc, vous allez avoir la bière plus rapidement et vous allez en profiter plus rapidement.
C'est un peu triché, tant qu'à moi. Moi, je veux faire de la bière à la vraie. Fait qu'on fait un lagering plus long, on attend plus longtemps. Puis, on triche pas. Quand on fait de la bière, le but, c'est de vraiment pas tricher. Par contre, ça goûte rien.
C'est neutre. Très neutre.
C'est pas quelque chose qui va vous faire goûter un peu la gélatine ou un peu le Jello, peu importe. C'est super neutre. Ça goûte pas beaucoup. Rien.
Okay.
À part la bière.
Pour ceux qui veulent le faire, soit vous attendez dans votre frigo parce que vous avez une tourie, ou sinon, si vous avez les refroidisseurs avec un refroidisseur au glycol, ça permet justement de contrôler la température pour la garder froide longtemps. Et où c'est qu'on achète ça, des refroidisseurs agricoles?
Ah, www.fitz.ca. Puis en plus de ça, je vous le dis, là...
Fitz.ca?
www.lebrasseur.ca, Fitz.ca, Fitzcafé.ca. Oui. Je mélange les deux compagnies. On a une promotion, là, je vous le dis tout de suite, parce que le temps que le podcast il sort, sa promotion va être probablement d'être là. La promotion, c'est... le 26 au Boxing Day. Je ne veux pas encourager le monde à se déplacer au brasseur parce qu'on n'aura pas le droit. Mais le 26 décembre, au Boxing Day, on va faire le refroidisseur au glycol un tiers de HP à encore 999,99 avec le glycol gratuit.
C'est quand même un beau cadeau parce que le glycol, qu'est-ce que vous allez acheter? Vous avez besoin simplement d'un gallon. C'est un ratio que vous allez mettre, un gallon de glycol pour deux gallons d'eau.
Puis, je vous le dis, là, d'habitude, il y a 1350 ce refroidisseur-là.
Je sais, je l'ai payé 1350, ça ferme à temps l'heure.
Fait que ça vaut vraiment la peine. On va avoir un délai d'environ 2-3 semaines pour la livraison parce que notre fabricant, lui, n'était pas service essentiel, fait qu'il est fermé jusqu'au 11. Mais on va faire les précommandes seulement le 26 décembre. Fait que si tu veux l'avoir, il faut le prépayer le 26 décembre, soit sur mon site web ou tu m'appelles ou tu m'envoies un courriel puis je vais t'envoyer un lien à payer par transfert Interac. Et ça va être merveilleux. Vous allez recevoir votre glycol environ 2-3 semaines après quand les commerces vont réouvrir.
Avec une petite parenthèse, j'ai ce refroidisseur au glycol depuis plus d'un an.
Oui.
Vous avez 4 entrées, 4 sorties. Et c'est parfait pour 4 fermenteurs. Et c'est très efficace quand j'ai besoin de refroidir très rapidement, mais volontaire, là, c'était contrôlé. Là, parce que des fois, ça va être très pratique l'été. L'été, votre eau n'est pas assez froide à l'extérieur pour refroidir votre bière assez. Des fois, je vais finir, avant la fermentation, je vais peut-être finir à 27 degrés ma bière.
Avant de mettre ta levure, tu veux dire?
Oui, avant, oui. Okay, dans mon fermenteur, pas de levure, couvert, j'étais à 27 degrés. En moins d'une heure, je vais avoir mon. En moins d'une heure, là, je vais avoir mon 18-19 degrés très, très rapide. Et que une fois que j'ai ma température, je vais rajouter ma levure. On met ça. Et que c'est très efficace. Je viens de chauffer beaucoup de temps. Moi, en tout cas, moi, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment.
Puis en plus, la manière qu'il est faite, c'est qu'il est vraiment compact. Pas haut, pas gros. Fait qu'on peut le mettre en dessous d'une table puis mettre nos fermenteurs par-dessus. J'ai vu ça m'emmener un post passé qu'un gars avait fait ça. Il avait mis ses 3 fermenteurs sur une petite table, une genre de table à salon, et le refroidisseur au glycol juste en dessous. C'est tous ses tuyaux cachés à l'extérieur. C'était super beau, c'était super clean. Puis là, si tu me dis, OK, Fitz, là, c'est bien beau là, avoir 900$, là, 999,99$ pour le refroidisseur au glycol. Mais moi, j'ai pas ça, un fermenteur conique double paroi avec grandfather, parce que je commence à brasser et tout, puis on n'a pas ça. Mais il faut que tu saches que toi, à la maison, qui utilise soit une Toury, soit le Anvil, soit la SS Brewtech, ou simplement la chaudière de plastique que le brasseur te vend, on a la possibilité de rajouter un kit avec un coil, un thermowell dans ton fermenteur avec le petit bouchon, et tu branches ton tuyau pour aller à ton coil, à ton refroidisseur au glycol, avec une petite pompe à l'aquarium à l'intérieur. Tu te jettes un Angbird, hein, pas Angry Bird, mais
c'est
Angbird.
C'est bon, ça s'en est
rappelé. Angbird. Je suis moins pire que Kev avec sa carbonatation. Puis, un coup que tu as fait tu vas pouvoir contrôler exactement la bonne température dans tous tes fermenteurs que tu veux. Et, comme Kev disait, 4 fermenteurs en même temps, c'est quand même... Pour un amateur de bière, Kev, as-tu besoin de plus que ça présentement de 4?
Moi, j'en ai 3. Puis, je brasse environ 3 fois par mois. Ou des fois, 4 fois, parce que j'arrive à faire une rotation à temps que j'ai pu vider un fermenteur pour recommencer. Je brasse beaucoup. Et que si vous n'avez à 4, ma femme m'a dit, ben là, on va attendre, là, parce que vu que tu as une autre entrée, là, je te connais, là, je suis sûr que tu vas finir avec un autre fermenteur. Probablement, à un moment donné, j'aurai un autre fermenteur, mais selon mes besoins présents, ça fonctionne très bien et il est assez puissant sans aucun problème pour les 4 fermenteurs. À 3, je peux faire 3 cold crash, j'ai aucun problème d'atteindre mes températures.
Fait que c'est vraiment un produit exceptionnel.
Fait au Québec.
Oui, en plus, c'est fait au Québec. C'est vraiment fabriqué au Québec, en plus.
À Blainville, Boisbriand.
Oh, je me rappelle plus exactement c'est où, mais en plus, le gars, il est super smart. Je m'entends super bien avec. Fait que si vous avez des problèmes avec, je vais pouvoir lui communiquer puis on va s'arranger quelque chose. Garantie un an. T'as-tu eu des problèmes, Cal? Ça fait plus qu'un an, tu
dis? Zéro bonne barre.
Ça refroidit encore bien?
Là, présentement, mon glycol se maintient à moins 4.
Puis c'est quoi l'entretien que t'as à faire avec ça, Kev?
J'en ai pas. Tant que mes pompes fonctionnent, la seule chose à regarder de temps en temps, c'est que assurez-vous que vous n'avez pas une fuite puis que votre glycol est tout là. Fait que si jamais vous avez des pertes en cause de vos fermenteurs ou quoi que ce soit, vous rajoutez un petit peu de glycol, mais ça ne m'est pas arrivé en dedans de plus qu'un an.
Puis Puis vérifiez aussi votre niveau d'eau parce que l'eau peut se dissiper. Là, la
mixture glycol-eau.
Oui, c'est ça exactement. Fait que l'eau peut s'évaporer. Puis une fois par 2 ans environ, on conseille fortement de tout changer le glycol. Un peu comme dans votre Prestone de votre auto. Hein. Vous faites ça à toutes les années comme le manufacturier vous le conseille.
Mais mettez pas de Prestone dans votre refroidisseur au glycol.
Je veux dire, comme dans votre auto, le Prestone, oui. À toutes les années, il faut le changer.
Non, mais au cas où quelqu'un a l'idée, c'est juste que le glycol est version alimentaire. Mm-hmm. Ça va peut-être faire la même chose du Prestone, parce que c'est fait justement pour les hautes températures, les basses températures, sauf que là, on parle alimentaire.
Ça va être sucré, si c'est sucré, mais c'est pas nécessairement bon à goûter. Hein?
Oui, parce que trompez-vous pas, les deux sont jaunes fluo.
En plus. Puis des fois, on a du rose. Des fois, ça dépend quelle sorte qu'on achète. Mais je vous le conseille fortement. Tu sais, c'est un beau cadeau à se faire ou à faire à ton chum qui t'apprend à écouter le podcast avec toi en auto, tu sais, puis qui doit te cogner du coude présentement. Hein,
gars, chérie, gars. Ils ont raison, là. As-tu vu, gars? Kevin et sa femme là, sont super heureux en mariage là, depuis longtemps. Là.
Tout ça à cause du glycol pack.
Oui, elle a prouvé à quel point que... C'est une femme passionnée qui me supporte dans mes projets et mes passions.
L'autre méthode, parce que si on revient à notre clarification de notre bière, l'autre méthode qu'on a pour clarifier de la bière, c'est deux paquets que je me rappelle vraiment pas c'est quoi du nom, qu'on casse puis qu'on met dans notre moût de bière, qui fait un peu la même chose que la gélatine, qui est beaucoup plus chère que la gélatine et qui contient des écorces de crevettes.
C'est pas des entrailles de poisson?
Non, c'est des écorces de crevettes.
OK.
Ça s'appelle du clair quelque chose?
Il y en a que c'est du biofine qu'on peut utiliser, mais que celle-là, il est végétalien.
Oui.
Ça, c'est un autre produit qu'on peut utiliser au même principe que la gélatine. Vous attendez que votre fermenteur soit froid, votre bière soit froide. Vous rajoutez ça dedans. Ça, c'est 100% végétalien.
Puis l'autre, c'est du clair quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est allergique aux fruits de mer, ben il y a de l'iode.
Puis, par expérience, ceux qui sont allergiques aux fruits de mer sont extrêmement allergiques aux fruits de mer. Ils sentent, ils vont faire une réaction sans avoir mangé.
Fait que si tu mets ça dans ta bière, puis tu te dis « Hey, chummy, goûte à ça, mon chum! »
Personne ne va le voir, personne ne va le goûter, mais... Vous voulez faire ça? Procurez-vous une épipène.
Exactement. Fait que je vous le conseille vraiment pas. Moi, je vais être plus du style puriste et faire ma bière en rajoutant le moins de choses possible. OK, ma blanche à l'orange, il y a des oranges rajoutées dedans. J'ai pas le choix. Mais 98% de mes bières, je vous dirais que j'essaie de faire ça avec les ingrédients de base. Et pourquoi, Kev, tu penses que j'essaie de faire ça avec les ingrédients de base? C'est-tu pour me penser meilleur que toi?
Non, c'est ta vision des choses. Dans un sens, on fait des bières pour nous faire plaisir. Fait que moi, j'aime ça expérimenter avec d'autres choses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ça te fait plaisir faire ça et t'aimes ça le goût du grain. T'aimes ça le goût du houblon. T'es
moi, j'aime ça quand
ça,
quelqu'un me dit « T'as mis des noix de coco là, dans ta bière? Hein? » Puis je réponds « Non. »
C'était le houblon.
Ouais, exactement. « T'as mis des tangerines dans ta bière? » « Non. » « T'as mis telle affaire dans ta bière? » « Non. » Fait que j'essaie de faire la bière, j'essaie de me surpasser à faisant de la bière. OK, ça fait peut-être un petit peu plus d'années que toi que je fais de la bière aussi. Et je me suis beaucoup amusé avec des écorces d'orange, avec des différentes choses à mettre dans leur bière. Puis c'est super bon. Là. Je dis pas que c'est pas bon de rajouter des cigares dans une bière ou quelque chose comme ça. Là. Je vous juge vraiment pas. Mais il y a un moment donné... que tu te dis... Juste un petit peu. Mais il y a un moment donné que tu te dis, en fabriquant de la bière, que ce serait le fun d'aller chercher, mettons, un goût de tabac sans rajouter de tabac. Comment tu vas faire ça? Ce serait le fun d'aller rajouter un goût de prune sans mettre de prune dans ta bière. Comment tu vas faire ça? Fait que pour moi, la meilleure façon, ça a été vraiment de connaître ma matière première, d'aller lire sur mes houblons, lire sur mes levures, lire sur mon malt, puis si tu me fais des tests de malt avec levure, avec houblon, vont te donner un certain goût, une certaine chose. Et c'est moi, c'est qu'est-ce que j'aime faire. C'est d'aller me surpasser, essayer de trouver des goûts que peut-être j'aurais jamais été capable si j'aurais pas eu le temps de lire sur toutes ces choses-là.
Et que ça prend beaucoup d'expérience et de la passion d'aller chercher ces connaissances-là. Je brasse beaucoup, faites se brasser beaucoup plus que moi depuis très longtemps. Donc, plus qu'on va brasser, plus qu'on... Ah, je retrouve le goût de ce houblon-là. tu étais capable de te ressouvenir de qu'est-ce que tu as goûté versus le produit que tu as eu. Fitz a travaillé en faisant beaucoup de bière, en essayant différentes choses. Et, tant mieux pour lui, il te rend dans une boutique à bière. Donc, continuellement, la connaissance, le monde pose des questions. Ah, tel houblon, tu peux faire ça. Tel houblon, tu peux faire ça. Donc, ça va permettre de vous donner un très bon service à répondre à vos questions très facilement.
En plus de ça, je connais beaucoup de monde qui travaille dans les microbrasseries qui vont me présenter des produits, des fois, que je ne connaissais pas. Il y a des clients, des fois, qui me demandent certains produits pour avoir certains goûts. Dernièrement, on a rentré le Red X, que j'avais aucune idée c'était quoi du Red X. C'est bêtement ce qu'il fait, puis ça va vous donner une couleur vraiment plus rouge de votre bière. Vous pouvez l'utiliser à 100%. Fait, au lieu d'utiliser un grain de base comme du Pilsner ou du Wireman, référez-vous à la vidéo que j'ai faite dernièrement. Mais vous pouvez utiliser le Red X qui est à 100%. Alors, au lieu de rajouter des caramels ou d'aller rajouter du grain torréfié qui va vous donner une couleur plus rouge côté dark, côté noir, vous pouvez utiliser le Red X à 100% dans votre bière pour avoir une bière vraiment rouge, rougeâtre. Puis dernièrement, on l'a vendu à un client puis il m'a dit je m'attendais à ce soit plus caramel que ça. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Avoir l'impression de, en regardant quelque chose, des fois, on va se dire « Hey, il me semble que le houblon, c'est vert. Ta bière, est-tu plus verte pour autant? »
La couleur vient jamais du houblon. Elle va venir de vos grains.
Fait que tu sais, vraiment à faire attention. Puis, tu sais, essayez d'expérimenter. Essayez de jouer avec vos grains, avec vos levures.
Il faut essayer. Puis on peut faire des erreurs, mais il ne faut pas s'empêcher de dire qu'on va se décourager parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été. Et que ça fait partie de l'expérience.
Mais moi, qu'est-ce que je faisais, là, c'est qu'à partir de ma quatrième brasse dans ma vie, là, j'ai fait « OK, c'est beau, je fais mes propres recettes. » Puis, des fois, c'était pas super hot, mais j'ai appris vraiment beaucoup. Et je te dirais qu'une bière sur deux que je faisais, je récupérais une recette que j'avais créée pour modifier. Fait que ma bière était pas imbuvable. Elle était juste pas au goût que je recherchais. Puis je vous dis qu'après un an, j'ai tellement appris sur mes grains, mes houblons, mes levures, mon nom et vraiment tout parce que je prenais le temps de bien faire mes recettes. Fait que si toi, tu commences à brasser, puis qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas de la soupe à Kevin, mais c'est de la soupe à toi. Bien, commence à lire sur tes recettes, puis commence à lire sur les styles d'ABJCP qu'on n'a pas fait aujourd'hui. C'était un podcast numéro 13, juste pour Noël!
Hey, on écoute. Vous allez avoir le nom, on a bien dit, c'est une California Common. Faites vos recherches, vous allez apprendre dessus. J'ai lu là-dessus pour pouvoir créer ma recette. C'est moi qui ai fait avec mes ingrédients. Et que si vous aimez ça, moi, j'ai fait un peu le même principe que Fitz. Et que je pars une recette, puis par la suite, une fois que j'ai goûté, ben si elle n'est pas 100%, je suis très perfectionniste, c'est que je suis un petit peu freak, là. C'est
je le confirme.
Moi, j'ai sur toutes les recettes, j'ai au-dessus de 100 recettes. Je n'ai peut-être 3 seulement que j'ai mis mon saut dessus. Puis, gars, je ne touche plus, elle est parfaite, je suis bien heureux. Parce que la réalité, c'est que je vais prendre la recette, je vais la refaire une deuxième fois, mais je vais avoir une petite modification. Le corps, on va modifier les houblons, on va modifier d'autres choses. Il y a des gens qui ne sont pas difficiles, mais dans tout, dans la vie, si on parle dégustation de café, dégustation de bière, dégustation de vin, quand quelqu'un va dire que ça coûte de vin blanc, ben c'est du vin blanc. Bon, on commence à la base. Votre goût va se développer. Vous allez apprendre à reconnaître des saveurs. Là, reconnaître. Si on dit une bière belge, on va tout de suite reconnaître une bière belge au nez. Mais ça prend de l'expérience. Vous allez vous habituer. Quand plus que vous allez en boire, plus que vous allez travailler avec certains ingrédients, vous allez pouvoir les reconnaître. Donc, faites la même chose. Apprenez à connaître vos ingrédients en faisant une recette. Puis, vous pouvez faire la même recette, mais modifier certaines choses, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, OK, ça, c'est beau, je connais bien mes grains. J'ai changé des houblons, j'ai changé les temps de mes houblons, j'ai changé les levures, les températures de fermentation.
Les températures de mâche, les températures de quand est-ce que tu vas mettre tes houblons, ben, le temps de quand est-ce que tu vas mettre tes houblons, mais aussi votre grain de base. C'est vraiment important de trouver le bon grain de base pour la recette que vous voulez faire.
Et que plus que vous allez brasser, plus que vous allez lire, vous pourrez être plus en confiance pour pouvoir faire par la suite votre recette. Amusez-vous, vous n'êtes pas confortable, on est là, Fitz est là, il y a un paquet de recettes sur son site web. Demandez conseils, demandez des idées. De notre côté, ça va nous faire plaisir. Mais il n'y a rien de plus gratifiant quand on a dit « Hey, j'ai créé ça », puis tu y goûtes, puis c'est comme « Wow! »
C'est vraiment bon, ça! Fait que, Kev, t'avais-tu un dernier cadeau à offrir à nos auditeurs présentement qui nous écoutent, soit au podcast ou en vidéo?
Bien, on a encore nos partenaires de chez Escarpement.
Wouhou, mon Kev qui se fait un petit wet t-shirt. Non, c'est même pas un wet t-shirt ici.
J'ai encore le chandail d'Escarpement.
Encore le chandail d'Escarpement?
Oui, c'est la dernière fois que je l'ai mis au dernier podcast, mais là, il fait frette, là, je t'anime. J'ai fait une California Common qui était une bière lager.
Lagers!
Ceux qui veulent savoir quelle levure que j'ai pris une Autobahn.
Autobahn.
Qui est une levure lager de la compagnie Escarpement. Et que, Fitz, je sais pas c'est quoi les règles que tu veux donner, tout le kit.
Ben, moi, je fais le cadeau, là. C'est Noël qui s'en vient. On est 5 jours avant Noël. On est dimanche. Je viens de finir de travailler. On a eu une bonne journée. Le monde sont là. Le monde nous écoute. Le monde sont contents qu'on fasse des podcasts. Le monde sont contents d'avoir la boutique, le brasseur, autant en ligne qu'en magasin. Demain, je dois travailler pour pouvoir expédier le plus rapidement possible. Fac, j'ai décidé de vous donner l'expédition gratuite sur les levures d'Escarpement. Mais un petit hic. Vous avez le droit de choisir soit une vraie lager ou une pseudo-lager. Fait qu'on veut avoir soit une crispy, soit avoir une colch, soit avoir une levure de cream ale, mais je pense pas qu'elle escape en fond, ou une levure de lager. Fait que le concours va se limiter à peu près à ce style de bière-là, et on aimerait vraiment beaucoup ça, moi pis Kevin, je sais pas encore, mais il aimerait ça en esti, que vous brassez la bière de Kevin et vous nous envoyez si vous gagnez la photo de pendant que vous brassez, et si vous êtes capable de faire un petit vidéo, ce serait vraiment intéressant. Fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on vous donne une lager ou une pseudo-lager, mais que vous créez avec la bière que Kevin vous a donnée en description les ingrédients et la marche à suivre. Fait que si ça te tente de participer à ce concours-là, Kev, qu'est-ce que nos auditeurs ont à faire pour gagner une magnifique levure d'Escarpement?
Ok, en bas de l'écran, encore une fois, vous allez avoir le lien à remplir pour être éligible au concours. Mm-hmm. Et que, encore une fois que vous allez rentrer toutes les informations, une fois qu'on va faire le tirage, et c'est un vrai tirage, on le répète encore, c'est le logiciel du où c'est que vous allez vous inscrire qui va sortir un nom.
Ayo.
Qui va sortir un nom au hasard. Et qu'on demande d'avoir des photos pour une participation. La dernière fois qu'on avait fait un gagnant, on l'avait montré des photos à notre podcast. Pour ceux qui se posent des questions, au dernier podcast, on avait plusieurs concours. On va faire une vidéo à part avec les gagnants des concours et que ça n'a pas été tiré encore. Vous n'avez pas rien manqué. Et que restez à l'écoute. Et sous peu, et on va pouvoir annoncer aussi les gagnants de ce podcast.
Enfin, l'année 2020 est finie ou va finir dans quelques jours quand vous allez avoir écouté ce podcast-là. J'ai une petite demande pour vous. L'année prochaine, moi pis Kev, je pense que... Mais en tout cas, moi, je vais continuer à faire des podcasts. Kev, tu veux-tu continuer à faire des podcasts avec ton ami Fitz?
Tant que t'es encore fait avec moi.
Oh, fait que ça va être pour longtemps et longtemps encore, les amis. Alors, on voudrait changer un peu la formule de la saison numéro 2. Cette année, on s'est vraiment consacré à des styles de bière, à vous expliquer d'après le style de la BJCP, comment faire cette bière-là et tout. Et je trouvais ça vraiment intéressant à faire. C'est sûr qu'on va continuer à en faire de la même façon. Par contre, si jamais vous voulez avoir plus de trucs, d'astuces, de tests qu'on va faire, moi et Kevin, qu'on pourrait brasser des bières de différentes façons, faire goûter à du monde, ou peu importe, qu'est-ce que vous aimeriez entendre, parce que nous, on fait ça parce qu'on a le goût de le faire, ça nous fait plaisir de le faire, puis que ça nous en rend heureux de vous apprendre avec nos connaissances qu'on a apprises. Mais... si toi, tu dis, moi, j'aimerais ça avoir un podcast aussi une fois de temps en temps avec certains, peu importe.
Critères, problèmes, questions, mm-hmm. Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que ça fait une différence? Présentement, le studio que Fitz a ici à son entrepôt est beaucoup plus avancé qu'il était. Et très, mm-hmm. très bientôt, les setups vont être faits pour pouvoir brasser sur place. Donc, en étant sur place très bien équipé, avec plusieurs équipements de brassage, avec mm-hmm. plusieurs fermenteurs. Les tests vont être faciles à faire et on va faire brasser 2-3 batchs en même temps. Fitz est très bien équipé avec plusieurs grandfather, avec les robots brou.
J'en ai juste 5, 2 robots brou, un G70, 3 glycol pack.
Donc, pour nous, ça va être facile de faire des tests contrôlés.
Attends, j'ai oublié l'Anvil aussi.
Ah, ben, tu vas l'amener ici?
Ben oui, je vais l'amener ici.
All right, on va faire ça, faire du fun avec. Et pour ceux qui ont des questions, faire des tests, on va pouvoir avoir des éléments très contrôlés pour être capable de voir est-ce que ça fait une différence, est-ce qu'on a un problème avec ça, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, c'est-tu une vieille idée conçue qu'on a toujours fait ça sans se poser de questions, puis en fin de compte, ça ne s'applique pas vraiment.
Les transferts de douris à fermenteur primaire, fermenteur secondaire, flusher les levures, température de fermentation, température de mash, utiliser des levures liquides, est-ce qu'il faut faire un starter ou pas de starter, est-ce qu'il faut hydrater la levure ou pas hydrater la levure, ça a-t-il une importance, ça a-t-il un impact sur le goût de la bière? Si c'est des choses qui t'intéresseraient qu'on fasse en test dans la deuxième saison des podcasts du Brasseur, parce que la saison numéro 1, on peut dire que est officiellement terminée, Kev?
Ben, je pense qu'on est rendu pas mal à la fin, là. On verra si on est capable de faire un miracle d'ici la fin de l'année, mais logiquement, on a fait le tour de cette année.
On a fait pas mal le tour de cette année. Fait que si tu veux apprendre d'autres choses, si tu aimerais mieux avoir des podcasts un peu différemment, avoir plus d'invités, laisse-nous-le en commentaire dans la vidéo ou écris-nous à podcast@le-brasseur.ca. Et ça va nous faire un grand plaisir de modifier un peu la formule qu'on fait présentement.
Et que pour ceux qui ont des idées, gênez-vous pas. On est là pour, si vous aimez ça, nous, on s'adapte en conséquence. On veut que vous tripiez puis vous continuez à nous suivre sur notre passion qui devient ou est, qui est déjà votre passion.
D'habitude, le monde qui nous écoute, c'est pas mal leur passion et ils aiment vraiment ça, les podcasts. J'ai des très bons commentaires. Le monde adore le fait qu'on explique, qu'on prenne le temps de bien expliquer, pas juste dire « cette bière-là est vraiment bonne. Elle goûte les arômes de nuages.
» C'est quoi qu'on dit encore? Là? Non, attends, j'essaie de penser les mots qui sortent pour le vin là, qui ne veulent rien dire. Là.
Il y en a plein de mots qui ne veulent rien dire quand tu dégustes. Fait que, tu sais, notre but, c'est vraiment de vous apprendre à déguster des nouvelles choses. Et on pourrait peut-être faire le premier podcast de 2021 avec des faux goûts.
Oh, ça, j'adore ça.
Fait que vous expliquer comment créer des faux goûts ou comment qu'on pourrait déguster des faux goûts et savoir nos deux impressions à l'aveugle avec quelqu'un qui nous sert des bières juste pour dire qu'est-ce que nous, on goûte réellement et qu'est-ce que c'est supposé de goûter. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais fais juste commenter en dessous de la description et on va y penser fortement parce que je pense pas d'en faire des faux goûts de cette année. J'ai pas fait mon cours de faux goûts cette année parce que la pandémie, on pouvait pas être 10 à 12 personnes en train de faire un cours de brassage ou un cours de faux goûts. Puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant.
Bien, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. La réalité, plus que vous êtes connaissant, plus que vous devez faire ces tests-là régulièrement parce que ça nous permet de discerner les erreurs dans une bière. Mais sauf que pour le savoir si ça goûte pas correct ou pas correct, il faut faire des tests pour être capable de se rappeler à notre palais. Est-ce que ça... Oh, t'as mis là, je connais ce goût-là, c'est pas correct. Puis quand on a cette connaissance-là, on peut savoir d'où c'est que le problème vient, comment qu'on peut le régler par la suite.
Alors, c'est tout pour le podcast. J'espère que tu as apprécié. C'est le dernier de 2020, en espérant que 2021 soit beaucoup mieux, pas en connaissance, mais en situation générale à travers le monde. Si tu es atteint du COVID, j'espère que tu vas t'en remettre pour continuer à nous écouter. Puis, si tu n'es pas atteint, mais j'espère que tu ne seras jamais. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, mon Kev?
On veut souhaiter une belle santé à tout le monde. On veut que tout le monde reste sain et sauf à la maison et... confinement, pas confinement, restez en santé.
Alors, pour 2020, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas la... Et abonne-toi. Partage en grand nombre. On se voit en 2021, les amis.
Ciao! Au revoir tout le monde.